Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle rencontre avec les artistes programmés au Festival de Rocamadour 2024. Ils sont deux à avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui, le ténor Enguerrand de Hisse et le pianiste Paul Bénet. Si je les interviewe ensemble, c'est pour la bonne raison qu'ils se produisent en duo ce soir à 18h à la chapelle du Grand Couvent à Gramat. Depuis jeudi, ils y donnent trois programmes différents, inspirés de leur CD Contes Mystiques. C'est un programme de mélodie française issu du CD qui porte ce titre et qui est paru il y a quelques mois sous le label Rocamadour Musique Sacrée. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté cet entretien à trois voix pour une fois pour les auditeurs de Radio Présence.
Bonjour.
Bonjour.
Comme c'est une première pour l'un et l'autre sur nos ondes, nous allons commencer par faire mieux connaissance avec vous. Tout d'abord, comment vous êtes-vous connus? Comment vous êtes-vous rencontrés? Je crois savoir que vous avez été tous les deux pensionnaires d'un certain conservatoire toulousain, assez connu dans notre région et même un peu au-delà.
Tout à fait, nous nous sommes rencontrés au conservatoire de Toulouse en 2004 ou 2005. Nous avons chanté dans le même chœur, parce que c'était chœur obligatoire quand on faisait du solfège et de l'instrument. On avait pris l'option chœur d'homme, dans mes souvenirs. Voilà, mais nous étions tout jeunes. Enfin, je devais avoir 18 ans.
Et moi, je devais avoir 15 ans.
Voilà, et donc ça, c'est nos premiers souvenirs. Et ensuite, donc, j'étais en classe de chant et Paul en piano, puis en accompagnement. Et il y a eu une masterclass avec Anne Lebozek, très grande pianiste. Et donc, Éloise Urbain et ma prof de chant, Anne Fonteville, à l'époque, avaient fait des duos. Et donc, on s'est rencontrés, on a travaillé la première fois comme ça. Et on ne s'est plus quittés.
Alors, ça veut dire, parce qu'après, vous avez été pensionnaire, je vais reprendre le terme, du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Donc, vous avez toujours gardé le lien?
Tout à fait. Nous avons tout d'abord gardé un lien très amical. Et quand nous nous sommes retrouvés au Conservatoire Supérieur de Paris, moi-même, je formais un duo avec Élodie Roudet, qui est une clarinettiste et amie, et je formais également un duo avec Enguerrand. Et nous avons décidé, avant tout par un lien amical, de nous retrouver à trois sur scène. Et il se trouve que ça a très bien germé, on va dire, cette fusion des deux duos en un trio. Et c'est un peu comme ça, finalement, que nous nous sommes retrouvés. C'est-à-dire pas tellement en duo dans un premier temps, mais plutôt en trio, en partenariat, donc clarinette, voix de ténor et piano, le trio Ionis, avec lequel nous sommes d'ailleurs tous trois en résidence au Théâtre Impérial Opéra de Compiègne depuis 2016. Mais en effet, ce trio ne nous empêche pas parfois de nous reproduire, Enguerrand et moi, en duo sur scène pour notre plus grand bonheur.
Ça, ce sont les productions auxquelles vous participez ensemble, mais vous avez vos carrières respectives à côté. Alors vous, Enguerrand, à quoi ressemble votre carrière aujourd'hui? Bon, elle passe beaucoup par l'opéra, mais sans doute pas seulement.
Oui, c'est une carrière très variée. J'ai eu beaucoup de chance, en effet, beaucoup d'opéras en France et un petit peu en Europe. Voilà. Et puis, plein d'autres projets aussi, donc avec le trio Ionis, Paul et Élodie. Et puis, tout ce qu'on me propose, là, l'été, plein de festivals. Je suis allé en Bretagne, je suis allé en Corse, je suis allé à Albi, enfin voilà. Et puis maintenant, Rocamadour, on voyage beaucoup et c'est super.
Enguerrand, vous êtes passé par le Conservatoire rayonnement régional de Toulouse, mais vous êtes aussi, depuis maintenant quelques années, un invité régulier des distributions à l'Opéra National du Capitole de Toulouse.
J'ai beaucoup de chance. Je reviendrai pour la saison là, qui commence en septembre. Je viendrai pour faire un opéra contemporain, Voyage d'automne, de Bruno Mantovani, avec Marie Lambert à la mise en scène. Et puis au mois de janvier-février pour Orphée aux Enfers, mise en scène par Olivier Py.
On en reparlera, c'est un peu plus tard, au cours de cette interview. Et vous, donc Paul, votre carrière à côté, en parallèle de celle qui vous amène à encore collaborer assez souvent avec Enguerrand, elle passe par quel genre de production, quel genre de projet?
Alors essentiellement des concerts et des récitals, beaucoup de musique de chambre. Je travaille régulièrement, donc on a parlé d'Enguerrand évidemment, on a parlé du trio Ionis qui nous est très cher, mais je forme également un duo avec la mezzo-soprano Maria Mirante qui est également mon épouse, avec laquelle je me produis beaucoup chaque année. Je travaille régulièrement avec un collectif qui s'appelle La Maison Illuminée, collectif à géométrie variable, essentiellement voué à la musique de chambre et particulièrement à l'impressionnisme, car ce collectif se trouve en Normandie, à Rouen, donc ça prend tout son sens. Mais également, parfois, je me produis en récital ou bien en concerto, comme ça va être le cas en mars prochain avec le 23e concerto pour piano de Mozart.
Que des beaux projets. On en arrive à ce genre bien particulier qui s'appelle la Mélodie Française. Quelle place tient-elle dans votre vie de musicien d'une part, mais aussi dans vos goûts personnels? Est-ce que c'est une musique, des musiques que vous aimez écouter en tant que simple mélomane par exemple?
Alors, c'est le pianiste qui parle. Pour moi, la Mélodie Française, j'ai envie de dire, m'a presque un petit peu sauvé, parce que j'ai rencontré ce genre musical à une période où j'étais énormément dans le doute par rapport à mon orientation professionnelle. Et il se trouve que, par le biais d'Anne Le Bozec, qui a été ma professeure au Conservatoire supérieur de Paris, la Mélodie Française m'a permis finalement de revenir de manière confortable et même, on va dire, avec une certaine symbiose, au piano, par une approche complètement différente et une approche qui est surtout guidée par le texte. Et finalement, ça m'a certainement orienté différemment par rapport à moi-même, par rapport à mon instrument. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est un terrain de jeu extraordinaire. Un jeu de phrasé, un jeu de couleurs, un rapport au piano qui est complètement différent et qui nourrit également mon rapport que j'ai quand je redeviens soliste sur scène. Donc c'est extraordinaire pour moi.
Enguerrand ? Parce que là aussi, c'est un exercice très différent de chanter de l'opéra et de chanter de la Mélodie Française.
Dès le début de mes études de chant, la mélodie a pris une place importante. Les premières années de chant, on découvre un peu, on nous fait tester plein de répertoires pour chercher, ouvrir la voix, le corps. Et donc, on donne souvent des mélodies de forêt. Et ça a tout de suite été une grande découverte et un immense plaisir à chanter. Dans un premier temps, c'est aussi la découverte d'un texte, et généralement des textes incroyables, des poètes formidables, qui inspirent des compositeurs formidables aussi. C'est vraiment un plaisir, il y a quelque chose aussi de très intime. Il n'y a à la fois pas d'interprétation théâtrale, et pourtant chaque chanteur, chaque pianiste va y mettre une interprétation, une couleur, un rapport à son histoire peut-être, à son vécu, son imaginaire. C'est vraiment un répertoire extraordinaire à travailler.
Justement, vous parlez de l'étendue de ce répertoire, parce qu'on pense beaucoup, vous avez cité Forêt, mais il y a les mélodies de Debussy, de Ravel, de Duparc. Mais en fait, depuis 1840 et les Nuits d'été de Berlioz, il y a eu une multitude de compositeurs, plus ou moins connus, qui ont creusé le sillon, qui se sont confrontés à ce genre. Est-ce que vous-même, aujourd'hui, vous continuez à découvrir de nouvelles mélodies, peut-être de nouveaux compositeurs et compositrices d'ailleurs?
Ah oui, tout à fait. Vous posiez la question tout à l'heure. J'écoute énormément de mélodies. C'est quelque chose d'essentiel et voire de vital pour moi de découvrir et d'écouter, de déchiffrer, de chercher, en étant toujours attiré. Et ça a été le cas pour le CD. D'abord, de travailler le texte. Est-ce que le texte me parle ou pas? Et ensuite, comment il est mis en musique? Est-ce que ça me parle ou pas? C'est vraiment très important pour moi. Et je pense pour Paul aussi.
Je confirme et je rejoins tout à fait Enguerrand, hein, parce que quand même nous avons des goûts en commun, quelques-uns. Mais on a de la chance aujourd'hui, je trouve, d'avoir accès à une bibliothèque de partitions sensationnelles par Internet. Et également, je pense à des gens très passionnés qui sont fins connaisseurs de la Mélodie Française. Je pense à François Leroux notamment, mais je pense également à certains de nos collègues chanteurs et pianistes qui aiment puiser dans les vieux cartons, dans les vieux dossiers, qui, même certains, aiment aller sur les vides-greniers pour retrouver des partitions égarées ou perdues. Et on tombe parfois sur des pépites, comme c'est le cas pour notre disque, évidemment. Et je pense également à des projets, parfois, qui nous permettent de découvrir des compositeurs qui étaient, pour ma part, inconnus. Je pense à Jacques Delaprelle. Enguerrand et moi, avec un ami, collègue chanteur, l'Oiseleur, nous avons donné un concert autour de ce compositeur complètement oublié, parce que tout simplement pas édité de son vivant. Et c'est sa petite fille, Alix Delaprelle, qui a remis sa musique au goût du jour. Donc c'est intéressant de voir que finalement, la Mélodie Française compte de nombreuses pépites, de nombreuses pièces qui, du temps de leur composition même, n'étaient pas connues, et reviennent un petit peu sur la table, si j'ose dire, sur le pupitre, aujourd'hui seulement.
Nous allons nous plonger dans le programme du CD Contes Mystiques dans quelques instants, celui qui alimente largement vos concerts à la chapelle du Grand Couvent de Gramat. Mais avant, nous allons en écouter un extrait, Priez pour paix de Francis Poulenc.
Faites prier. notre courtoisie. Saints et saintes, et prenez votre adresse vers votre Fils, requiert en sa hautesse qu'il lui plaise son peuple.
Priez pour paix, magnifique mélodie de Francis Poulenc, composée sur un poème de Charles d'Orléans, dédié à la Vierge Marie, et chantée par Enguerrand de Huys, accompagné au piano par Paul Bénet, extrait du CD et du programme Conte Mystique, ce projet d'enregistrement de mélodies françaises. Comment a-t-il vu le jour et qui en est à l'origine ?
Alors c'est Aimeran Rollin, le directeur de Rocamadour Musique Sacrée, qui nous a proposé d'enregistrer un CD de mélodies. Alors ça a été toute une histoire parce qu'il a fallu choisir un programme. Donc avec Paul, nous sommes partis dans du déchiffrage et des recherches à la BNF, dans les bibliothèques, sur Internet, pour savoir quoi enregistrer. Et donc nous avons fait quelques longues mais fructueuses séances de répétition, de déchiffrage. Et puis donc nous sommes tombés un petit peu par hasard sur une première mélodie, Le rêve de Jésus de Pauline Viardot, absolument magnifique, que nous avions mis tout de suite en se disant celle-là il faut l'enregistrer, c'est trop beau. Et puis au fur et à mesure on découvre, et grâce à Loiseleur, donc un baryton, qui nous envoyait aussi quelques partitions, on découvre qu'en fait cette mélodie fait partie d'un cycle, d'un recueil sur les mêmes poèmes de Stéphane Bordez, 11 mélodies et un prélude d'Augusta Holmès, inspiré donc et écrit sur les poèmes de Stéphane Bordez. Et donc on en a parlé ensuite à Aimeran, lui faisant plusieurs propositions, lui disant on a tel programme, ou sinon on a aussi ce cycle conte mystique, pas enregistré, pas connu, oublié, avec dedans la très connue mélodie En prière de Gabriel Fauré, mais c'était la seule connue.
Et donc on s'est dit pourquoi pas, Aimeran s'est dit pourquoi pas, et c'est comme ça que le projet d'enregistrement s'est concrétisé. Mais quand nous avons cherché ces mélodies, sans les chercher finalement elles sont venues à nous, on est tout de suite tombé amoureux finalement à la fois de la musique même de ces compositeurs, également de cette espèce d'unité, de cycle, et également la thématique nous a considérablement parlé.
Alors la thématique d'ailleurs, quelle est-elle ? Conte mystique, il semblerait que ce soit inspiration religieuse, en tout cas sacrée. Est-ce que c'est uniquement ça ou est-ce que c'est plus large que ça ?
Alors le recueil Conte mystique, donc écrit sur des poèmes de Stéphane Bordez, nous raconte et nous parle de l'enfance de Jésus. Il semble inspiré des évangiles apocryphes. Donc il raconte des événements, parfois un peu naïfs, en tout cas très mignons, de Jésus enfant qui va par exemple faire son premier miracle ou qui va ressusciter un petit oiseau. C'est très mignon, c'est absolument ravissant. Ça peut paraître parfois un peu, bien sûr d'une autre époque, mais un peu naïf, un peu suranné.
Un peu enfantin,
mais les compositeurs magnifient cette poésie et la rendent sincère. Et ce que je voulais dire qui est très important, c'est que habituellement un cycle de mélodies, c'est une collaboration entre un poète et un compositeur.
Oui.
Et là, c'est un ovni musical, puisque donc il y a un poète, mais 12 compositeurs. Donc c'était un peu une énigme pour nous, comment se fait-il que ce poète oublié, inconnu, Stéphane Bordez, ait réussi à entrer en contact de son vivant avec ces 12 immenses compositeurs et compositrices, puisque donc il y a Fauré, Massenet, Saint-Saëns, d'autres qui étaient très connus à leur époque.
Charles-Marie Vidor.
Voilà,
Pauline Viardot, vous avez cité.
Pauline Viardot, enfin des très grands compositeurs, mais qui étaient aussi à l'époque cantatrices ou organistes, professeurs, voire même directeurs du Conservatoire supérieur de Paris.
Il y avait Théodore Dubois.
Voilà, enfin, chef d'orchestre.
Charles Lecoq, voilà. Bon, voilà, des gens qu'aujourd'hui, effectivement, je pense que voilà. Le grand monde ne connaît, même parmi les mélomanes.
Oui, mais à leur époque, ils étaient très connus.
D'où tout l'intérêt de ce disque, entre autres.
Et donc, ce que nous avons découvert au fur et à mesure de nos recherches, c'est qu'en fait, il travaillait... Il a été, à la fin de sa vie, directeur des éditions Durand, donc qui est une grande maison d'édition de partitions. Son père était aussi un grand chanteur, compositeur napolitain, mais arrivé en France, et qui a écrit pour l'opéra comique, etc. Et donc, il était en contact avec tous ces gens-là, et il a réussi à créer ce cycle, ce recueil de partitions magnifique.
Pour le resituer dans le temps, Stéphane Bordez, il est né en 1847, mort en 1919, donc pleinement contemporain. Bah, tous ces compositeurs que vous avez cités, c'est étonnant que ce cycle soit un petit peu tombé dans l'oubli avant que vous l'en sortiez.
Oui, ça a été vraiment une découverte. Donc il a été créé en 1896 à Paris. Et puis, dans ce qu'on a trouvé à la BNF, c'est qu'il a été repris plusieurs fois à Tours, à Lyon, mais toujours à peu près dans les mêmes époques. Et puis, ensuite, on...
Voilà, il est tombé dans l'oubli, comme
exactement.
Je le disais. Jusqu'à ce que vous retombiez dessus. Alors, pour vos trois récitals au Grand Couvent, à Gramin, en fait, vous avez fait à chaque fois un programme un petit peu différent, même s'il est inspiré à chaque fois du CD, puisque le premier, c'était vraiment en conte mystique.
Voilà, donc que le cycle des contes mystiques, uniquement basé donc sur les poésies de Stéphane Bordez. Et puis le deuxième, donc le 23, c'est autour de la prière, qui s'intitule ce concert En prière, avec par exemple une magnifique mélodie de Mel Bonis, Allons prier. Et puis on a trouvé un autre père de Ropartz, un autre père de Jacques de Laprelle, et d'autres mélodies, voilà, toujours d'inspiration religieuse, bien sûr sacrée, pour le festival de Rocamadour, avec des mélodies très connues, par exemple Repentir de Gounod, le concert de ce soir qui s'intitule À Marie, puisque à Rocamadour, il y a une maison accrochée à la falaise, sur laquelle au-dessus de la porte, il y a écrit À Marie. Et donc on s'est dit, à Rocamadour, enfin à Gramma, mais à Rocamadour, il faut faire un récital à Marie pour la Vierge Noire et toutes les autres Vierges, même Vierge Blanche de France.
Une question à Paul, musicalement, pour le pianiste que vous êtes, ces compositions, ces partitions, est-ce que c'est vraiment de la très belle musique à chaque fois ?
Tout à fait. J'ai envie de dire que c'est de la musique, finalement, j'emploie faussement ce terme-là, mais minimaliste, dans le sens où il y a très peu de matériaux. Mais chaque note a sa place, chaque nuance a son intérêt, chaque phrasé a sa signification. Et c'est toute la difficulté pour le pianiste, finalement, c'est de conduire un peu sur une brèche, sur un fil, effectivement, la musique écrite au piano, afin qu'elle serve le texte sans jamais prendre trop de place. Il y a beaucoup de nuances, par exemple, extrêmes, comme 4 pianos écrits, ou à l'inverse, des fortissimo. Mais tout est extrêmement sculpté, extrêmement dosé. Et je me faisais la réflexion, quand nous avons donné notre concert hier, donc autour des contes mystiques, je suis ressorti du concert pour pourtant l'avoir joué précédemment, épuisé. Épuisé physiquement
parce
et mentalement.
Parce que ça nécessite une concentration de tous les instants.
Absolument. Et en répétant ce matin avec Enguerrand, j'ai dit spontanément, mais tu sais Enguerrand, jouer une polonaise de Chopin, en fait c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on peut s'abandonner dans le son et se laisser porter par le son. Là, on est dans une idée de micro-sculpture, comme un vitrail, un petit peu tout est pesé.
Oui, parce qu'il faut rappeler quand même à nos auditeurs que dans la mélodie française, c'est le texte qui est préexistant et le compositeur vient composer sur le poème qu'il a choisi ou qu'un poète de sa connaissance lui a soumis. Et je pense que pour le pianiste, le jour du concert, c'est pareil, il est au service du chanteur, parce que c'est le chanteur qui a le texte.
Exactement, et j'aime bien dire que quand on joue ce type de répertoire, finalement, il faut apprendre à s'oublier soi-même quand on est au piano.
Je voudrais dire que le pianiste n'est pas au service du chanteur, on forme vraiment un duo. Nous sommes tous les deux au service de la musique, mais du texte. Vraiment, le pianiste est extrêmement important, autant que le chanteur. Il colore vraiment le texte, et tous ces grands compositeurs étaient aussi la plupart claviéristes, donc que ce soit organistes, pianistes, et donc savent exactement pour quel instrument ils écrivent, et ils font ça très très bien.
Bah, souvent, au moment de la création, c'est souvent le compositeur lui-même qui était au clavier avec une chanteuse ou un chanteur.
Tout à fait.
Voilà, alors ce que je voulais dire, c'est que le pianiste est au service du chanteur, au sens où c'est le chanteur qui a le texte, hein, c'est lui qui prononce le texte. Mais je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faut aussi que le pianiste inspire le chanteur dans son interprétation. Sur le CD Contes Mystiques, il y a une mélodie de Mel Bonis, cette compositrice du début du XXe siècle qu'on redécouvre avec beaucoup de bonheur depuis quelques années. Elle a pour titre « Allons prier ».
Voici le soir, le cœur a besoin de prière, comme de brise le parterre, comme de rayon lost en soi. Allons prier, voici le soir.
Allons prier, mélodie composée par Mel Bonis sur un poème de l'abbé Léon Rimbaud, chanté par Enguerrand de Hisse, accompagné au piano par Paul Benet, une pièce extraite, une de plus de votre CD Contes Mystiques, paru sous le label Rocamadour Musique Sacrée. Pour terminer cet entretien, quelques mots sur vos projets respectifs dans les mois à venir. Alors vous concernant Enguerrand de Hisse, nous allons une nouvelle fois pouvoir vous entendre sur la scène de l'Opéra National du Capitole, où vous allez vous produire à deux reprises, vous y avez fait allusion au début de cet entretien. Il va y avoir cette création mondiale, la création mondiale d'un opéra contemporain de Bruno Mantovani.
Ça s'appelle Voyage d'automne.
C'est inspiré d'un livre qui raconte le voyage des écrivains collaborateurs, on va appeler ça comme ça, en 1941, à l'invitation du régime du Troisième Reich. Et donc avaient été invités 5 écrivains très célèbres de l'époque, qui sont toujours aujourd'hui d'ailleurs, Marcel Jouhandeau, Drieu La Rochelle, Ramon Fernandez, le père de Dominique, l'académicien, Jacques Chardon et donc Robert Brasillach. Le livret s'inspire de ce voyage, ils y sont restés assez longtemps, au congrès des écrivains de Weimar. Et vous allez interpréter, alors pas le rôle d'un écrivain français justement.
Non, je fais le rôle de Hans Baumann. On a eu la partition et puis j'ai eu aussi une petite rencontre avec la metteur en scène Marie Lambert. Voilà, pour parler de ce projet, quand on fait un opéra contemporain, il y a une part de découverte de la partition, aussi du langage du compositeur. Et puis, en même temps, on ne reçoit que la partition piano-chant, donc il y a une inconnue énorme par rapport à l'orchestre. Donc je pourrais pas trop vous en parler. Donc j'attends avec impatience de commencer les répétitions pour savoir aussi comment va se passer la mise en scène. Est-ce que c'est une reconstitution historique? Est-ce qu'on doit incarner réellement les personnages qui ont vraiment existé? Quelle part de soi-même on peut mettre ou pas? Comment se protéger? Voilà, mais ça c'est du travail qu'on fera tous ensemble lorsqu'on sera réunis au Théâtre du Capitole.
C'est du 22 au 28 novembre, Voyage d'automne de Bruno Mantovani. Et effectivement, comme vous le disiez, même 80 ans après, ça reste un sujet extrêmement sensible dans notre pays. Alors vous serez aussi dans la distribution d'Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach du 24 janvier au 2 février. Mise en scène d'Olivier Py et vous serez Mercure.
Tout à fait, donc vraiment rien à voir. Ça sera, je suppose, un tout petit peu plus joyeux.
Et là aussi, on est très curieux de voir ce qu'Olivier Py va faire d'Orphée aux Enfers. À mon avis, il va être comme un poisson dans l'eau dans ce genre de production. Alors vous, Paul Benet, qu'est-ce que vous nous préparez pour la saison 24-25?
Alors je serais tenté de dire dans un premier temps que nous allons, pour notre plus grand bonheur, redonner notre programme de disques Contes Mystiques avec Enguerrand à l'Opéra d'Avignon. Je crois que ça sera en décembre 2024. Avec notre trio Ioniste, nous allons donner une petite tournée dans les Hauts-de-France. C'est loin d'ici, je sais. Donc nous allons donner une tournée avec plusieurs programmes différents dans les Hauts-de-France, dans le cadre du festival En Voix. Prochainement, je vais partir sur le Douro, en croisière musicale dans le cadre de Voyages d'Exception avec un ancien professeur du Conservatoire de Toulouse, Frédéric Vesniter, pianiste merveilleux, avec également Sophie Lemonnier-Vallès, qui est violoniste et directrice artistique de la croisière, avec également Olivia Gay, qui est une magnifique violoncelliste, et son mari Thierry Maillard, qui est pianiste de jazz. Je vais aller avec mon épouse, donc Maria Mirante, en Polynésie française pour une série de concerts et de masterclass. Et il y aura une croisière également sur le Danube en juin 2025.
Que de belles destinations.
N'est-ce pas?
Tout ça, c'est vrai, ça fait envie et ça fait rêver. Écoutez, un grand merci à tous les deux, Enguerrand de Hisse et Paul Benet. Je rappelle que votre CD de mélodie française, Conte Mystique, est paru il y a quelques mois sous le label Rocamadour Musique Sacrée. On peut se le procurer sur le site du label. Vous donnez votre programme qui en est largement inspiré aujourd'hui à 18h à la chapelle du Grand Couvent à Gramat. Pour ce concert, les places peuvent être achetées et réservées en ligne sur le site www.rocamadourfestival.com. Je donne rendez-vous aux auditeurs de Radio Présence demain à 13h25 pour un entretien avec la mezzo-soprano Eva Zajcik avant son concert au Château de la Traîne. Merci de votre fidélité et très bon après-midi à tous à l'écoute de notre antenne.
Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine Éric Dupris.